Elle est anorexique. Sans cesse préoccupée par la nourriture, elle peut faire la cuisine pour les autres, lire des magazines de recettes, mais elle ne mange pas en public, compte ses calories, surveille sa balance et maigrit dramatiquement. Je vais très bien, je m'envole, je me sens libre, intelligente, et puis je n'arrive pas à avaler quoi que ce soit. Maladie complexe du corps et du cœur, l'anorexie est de plus en plus considérée comme une addiction, laquelle survient sur une vulnérabilité génétique et un terrain de manque de sécurité intérieure, de doute sur soi, de traumatisme subi. Parfois, une petite phrase humiliante entendue sur leur embonpoint les poursuit. Elles se trouvent trop grosses et commencent un régime. Mais cela met en branle un mécanisme psychophysiologique qu'elles ne maîtrisent rapidement plus du tout. Les jeunes anorexiques sont terrifiées à l'idée de grossir et peuvent se sentir terriblement coupables si elles mangent un peu plus. Mais plus encore, c'est le plaisir intense de perdre du poids qui les motive. Leurs circuits cérébraux de la récompense s'activent quand la balance indique un poids inférieur à celui de la veille. Le contrôle est grisant et la perte de poids les ravit. Les inciter à faire un effort pour avaler un peu plus rate la cible. Certaines mâchent puis recrachent sans comprendre pourquoi et en se sentant stupides de faire cela, mais sans pouvoir s'en empêcher. Une hypersensibilité de la cavité buccale déclenche des réflexes nauséeux. Ce syndrome dit de dysoralité sensorielle est encore peu connu en France. Après un petit bout de pain et un yaourt 0%, repas qu'elle estime léger, elle se sent surchargée, le ventre gonflé, ce qui lui prouve qu'elle a encore trop mangé. Elle ne réalise pas que la véritable raison est que ses intestins ne dégradent correctement ni pain ni produits laitiers. Sa flore intestinale est sans dessus-dessous. Ce sont les intestins qui produisent 85% de la sérotonine, le neurotransmetteur qui permet de se sentir bien à partir du tryptophane. Ce dernier est apporté par l'alimentation. L'anorexique mangeant très peu, elle ingère moins de tryptophane, donc sécrète moins de sérotonine. Les anorexiques ont aussi peu de dopamine, donc plus de mal à éprouver de la joie. Le problème est loin d'être seulement mental. Des médecins comme le docteur Natasha Campbell-McBride soignent avec succès l'anorexie par la restauration du microbiote intestinal. Les anorexiques produisent aussi des anticorps de la sérotonine. Elles ont donc vraiment du mal à se sentir détendues. Des anticorps, agissant dans le système limbique, pourraient induire des émotions de dégoût et de peur. Enfin, des chercheurs de l'INSERM ont découvert l'incidence d'une bactérie qui perturbe le système immunitaire et dérègle la prise alimentaire. Cette bactérie produit une protéine si semblable aux hormones responsables de la satiété que les anticorps les ciblent aussi. La tendance au perfectionnisme et à l'hypercontrôle, le niveau d'anxiété élevé, la rigidité cognitive et l'évitement pourraient être liés au fait que chez les anorexiques, les récepteurs à la sérotonine sont exprimés au niveau du cortex orbitofrontal, ce qui n'est pas le cas des non-anorexiques. Les troubles du comportement alimentaire, TCA, anorexie, boulimie, hyperphagie, touchent 5 à 10% de la population. Un garçon pour 10 filles. Proportion qui incite les scientifiques à pencher pour un trouble auto-immun. Nous esquissons une moue de débit si elle n'absorbe pas le petit plat concocté? On insiste pour la faire manger? Elle interprète nos réactions comme du dégoût. Elle est encore trop grosse et dégoûtante, encore pas assez bien, et cherche à mincir plus encore. Stopper tout jugement dans notre tête et dans notre cœur est une première étape nécessaire. Elle ne peut pas juste se remettre à manger. Le psychique et le physique interagissent. Il est important de mesurer la puissance de l'addiction pour aider l'ado à guérir. Elle a besoin d'aide pour enrayer le cercle vicieux physiologique dans lequel son corps est engagé. Car si elle croit contrôler son alimentation, c'est en réalité son corps et son cerveau qui la contrôlent. Elle a aussi cruellement besoin d'être entendue dans la souffrance qui l'a menée à cette addiction à la perte de poids. Quelle douleur tente-t-elle de juguler? Quel sentiment de ne pas être aimé ou de ne pas être à la hauteur? Quel trauma, quel conflit intérieur, quelle perte? Quelle perte de contrôle a-t-elle subi, à laquelle elle tente de survivre par le contrôle de sa prise alimentaire? Elle fume. Tu fumes bien, toi? Je ne suis plus une enfant, je fais ce que je veux. La plupart des parents imaginent que leur propre enfant sera plus raisonnable que les enfants de leurs amis. À 15 ans, plus de la moitié des adolescents ont goûté au tabac. Certains roulent même leurs clopes, d'autres achètent des blondes ou des brunes. Les sans-filtre ont leurs adeptes. Le choix est identitaire. Les messages alarmants imprimés sur les paquets ne semblent pas avoir une quelconque efficacité sur les jeunes. Notre culture valorise encore bien trop le tabac. Fumer reste sexy. La cigarette occupe les mains et donne une attitude. Le tabac a un parfum de transgression et de liberté. Fumer rehausse le statut social des garçons en mal d'estime d'eux-mêmes et d'attachement. De leur côté, préoccupées par leur poids, les filles peuvent être tentées d'utiliser le tabac comme coupe-faim. Pour les uns comme pour les autres, impulsivité, faible niveau scolaire et consommation d'alcool sont les facteurs de risque les plus importants. Nos meilleures options sont indirectes. Renforcer son estime d'elle-même, être présent, passer du temps ensemble, la soutenir dans sa scolarité, croire en elle, l'aider à améliorer ses résultats, parler de tout et de rien, et entre autres du tabac, mais sans lui faire la morale. Et si un des parents n'a pas encore arrêté de fumer, c'est le moment pour montrer la voie. À 15 ans, 56% des jeunes ont expérimenté le tabac. 19% des jeunes de 15 ans en font un usage quotidien. 33% des garçons et 30% des filles de 17 ans fument quotidiennement. Chiffre de 2011. Attention au tabagisme passif, tout aussi nocif pour les jeunes. Il dit qu'il cherche à se détendre. Les ados de 15 à 17 ans ont un taux de cortisol supérieur à celui des ados de 11 à 13 ans. Cela impacte le cerveau, notamment les aires les plus sensibles au cortisol, l'hippocampe, le cortex préfrontal et l'amygdale, qui n'ont pas encore terminé leur maturation. Le stress est une réaction d'adaptation de l'organisme. L'alarme met le corps en mouvement pour réagir très vite, attaquer ou fuir. Puis, si le problème n'est pas résolu, le corps se met en tension, sécrète du cortisol. Utile pour faire face à l'adversité, les hormones de stress sécrétées en excès deviennent toxiques pour les neurones. Entre 15 et 17 ans, les facteurs de stress sont multiples. Interrogations sur l'avenir, amour, famille pas fastoche, pression scolaire, examen. L'ado va bien naturellement tenter de réduire ses tensions en allant vers tout ce qui semble le libérer de ce stress. Masturbation, mais aussi soda, nourriture grasse et sucrée, cannabis, alcool, jeux vidéo. Il fume du cannabis. Question cannabis, les adolescents français sont les champions d'Europe. Chez les adultes, la consommation de cannabis perturbe la mémoire à court terme, mais chez les adolescents, elle a aussi un effet dévastateur sur la mémoire à long terme. Une étude texane a révélé qu'une consommation de cannabis commencée avant l'âge de 16 ans altère la maturation du cerveau. La substance active, le tétrahydrocannabinol, THC, entrave les mécanismes de sélection synaptique et d'élagage. Le cortex s'épaissit au lieu de s'affiner. Les sillons de la surface du cerveau sont moins profonds. Le cortex ne se replie pas suffisamment, diminuant mémoire et flexibilité mentale et entraînant jusqu'à 8 points de QI en moins. De plus, des adultes ayant consommé quotidiennement du cannabis pendant au moins 3 ans au cours de leur adolescence présentent une déformation de l'hippocampe, une structure cérébrale impliquée dans la régulation de la mémoire. Leurs résultats sont de 18% inférieurs à ceux d'adultes n'y ayant jamais touché. 10% seulement des ados consomment pour fuir une souffrance. 90% le font pour être avec les autres, parce que c'est cool. Dans une soirée, il y a toujours quelqu'un qui allume un pétard. Tous les collégiens savent qui vend de l'herbe. Le joint est banalisé, même à la télé. Il a les yeux rouges, ses pupilles sont dilatées, une drôle d'odeur flotte autour de lui. Si nous nous contentions de le constater d'une voix tranquille, il sait ainsi que nous le remarquons. Savoir que nous savons et que nous ne crions pas le responsabilise davantage que tout interdit, menace ou punition. Nous ne pouvons empêcher nos enfants de fumer. Nous pouvons éviter de les enfermer dans une rébellion qui les inciterait à fumer davantage et pouvons solidifier leur fondation pour qu'ils arrivent à décider eux-mêmes de dire non. Ça ne me plaît pas que tu fumes. Je sais que je ne peux pas te l'interdire. De toute manière, je ne peux pas te contrôler quand tu es avec tes amis. C'est ta liberté de fumer ou non. Je t'ai envoyé des liens d'articles que j'aimerais que tu lises. Près de 41,5% des jeunes de 17 ans ont déjà fumé du cannabis. 6% en consomment régulièrement. Le cannabis n'est pas une introduction aux drogues dures. L'immense majorité ne touchera pas à ces dernières. Et, bonne nouvelle, passé la vingtaine, les ados passent à autre chose et les statistiques tombent à 1,8%. Ils passent facilement de l'agressivité à l'euphorie. Ils ne s'intéressent à rien, dort tout un après-midi, son argent de poche fond très vite. Parlons-en avec lui. Un quart des ados ne connaissent pas l'opinion de leurs parents sur la question. Quand on fume, on a tendance à ne plus côtoyer que des gens qui fument. Notre ado peut se trouver prisonnier de son milieu. Parfois, changer de collège, de ville, voire de pays, aide à s'en sortir.